Radio Médium, bonjour. Il est 11h, passé de quelques secondes sur Radio Diwa, 107.5 FM et rdwa.fr sur Internet. Bonjour Latika.
Salut Aline, bonjour.
Bonjour Luc.
Bonjour Aline, bonjour Latika.
Bonjour Luc.
Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser pour l'annonce que j'ai faite la semaine dernière, puisque je vous ai dit la semaine prochaine, on aura Carmen en direct du Canada. Mais non, c'est pas cette semaine, c'est bien la semaine prochaine par contre. Donc voilà. Et aujourd'hui, bienvenue à Luc Boussard, une nouvelle voix sur Radio Médium, mais pas une nouvelle voix pour Radio Diwa. Les auditeurs, auditrices déjà habitués à la radio ont pu avoir l'occasion de t'entendre dans plusieurs interviews sur différents sujets, soit dans lesquels tu étais l'interviewé, soit même dans lesquels tu étais l'intervieweur. Donc voilà, toutes ces interviews, je vous invite à utiliser le moteur de recherche de Radio Diwa en tapant Luc Boussard et on retrouvera toutes les émissions auxquelles tu as participé. Mais bon, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce qu'on ne te laisserait pas te présenter ?
Donc je suis moine zen, j'enseigne et je dirige la pratique du zen, donc de la méditation assise zazen, au dojo zen de Di et dans la vie civile. Je suis écrivain, poète et traducteur. Je gagne ma vie en faisant des traductions.
Ben voilà, ça fait un petit tour d'horizon qui va nous permettre donc de lancer l'émission voilà, par une citation justement qui vient d'une de tes précédentes émissions que j'ai réécouté un petit peu pour préparer cette émission. Et c'est une citation de Taizen Deshimaru, de Maître Deshimaru, qui est un maître zen et que tu as bien connu.
Oui.
Alors, je le cite. Dans le zen, on ne se pose pas la question de l'existence ou de la non-existence d'une substance, entre parenthèses, Atman. On se pose le problème suivant. Que faire ? Comment exister ici et maintenant ? Comment vivre sur cette terre? Comment résoudre mon problème amoureux? Que vais-je manger alors que je n'ai pas d'argent? Comment résoudre les souffrances d'aujourd'hui? On est en plein dans la spiritualité concrète, comme on l'aime à Radio Médium. Et est-ce que ça a à voir avec être bien heureux ou être malheureux, avec le bonheur, avec le malheur, et aussi avec la situation sociale. On s'intéresse à des choses concrètes.
Oui, bon.
À notre condition concrète de comment on s'en sort ici, sur Terre.
Oui, je pense que c'est un très bon départ et une très bonne mise en perspective de la vraie nature de notre pratique, de la recherche de la voie, de la spiritualité authentique, qui est tout à fait quelque chose de concret, d'existentiel, de vital. Bien loin de toutes les spéculations métaphysiques. La pratique de la voix n'a rien à voir avec la métaphysique. C'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement concret qui concerne chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne, dans son existence au monde, avec les autres. Au début de la citation, Maître Deshimaru parlait de la substance ou de la non-substance. C'est un débat récurrent dans la métaphysique indienne. Est-ce qu'il y a une substance, un atman? Est-ce que quelque chose de... une nature individuelle qui survit au cycle des morts et des naissances? Bon, ce genre de spéculation, on ne s'en occupe absolument pas, sauf si on a envie de faire joujou, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la pratique de la voix, qui est quelque chose de beaucoup plus vital et de beaucoup plus urgent. Hein, comme le disait Maître Deshimaru, comment je résous mes problèmes amoureux, comment je m'occupe, je m'arrange pour avoir à manger tous les jours. En gros, la pratique de la voix, la pratique de la spiritualité, part d'un questionnement sur notre présence au monde, un questionnement sur la réalité. Et elle part du constat, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les textes et d'ailleurs dans toutes les traditions, elle part du constat du caractère insaisissable, irréel, impermanent de notre ego, de notre individu et de tout ce qui nous environne. Il n'est rien de stable et de permanent. Il n'est rien qui ne soit voué à la dégénérescence, à la décrépitude et à la mort. Donc la pratique de la voix part de ce questionnement. Qui suis-je ? Est-ce que je me définis par mes émotions, par mes attachements, par mes idées personnelles, qui, bien évidemment, n'ont pas de substance, n'ont pas de réalité ? Ou est-ce que je trouve ma véritable appartenance, ma véritable raison d'être, ma véritable nature, dans une dimension qui se situe au-delà de toutes les contingences égotiques. Donc voilà le questionnement qui est à l'origine de la pratique de la voix. La pratique de la voix, c'est la recherche, en fait, de l'éveil, de notre véritable appartenance, de notre dimension la plus authentique et la plus profonde.
J'ai eu l'occasion de t'entendre dire aussi que, peut-être que je vais mal te citer, hein, tu n'hésites pas à me dire, qu'on allait à la recherche de notre nature.
Oui.
Alors, je trouve le mot nature en français, en tout cas, et puis dans notre société actuellement aussi, il est très ambivalent. On ne sait pas trop ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel. On emploie un peu ce mot à tort et à travers, parce que des choses culturelles, en fait, on dit que c'est naturel ou quoi. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le zen, c'est une recherche d'un processus physiologique qui est le processus physiologique normal, de fonctionnement normal de notre corps humain? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ce mot nature, notre nature à la recherche de laquelle on part?
Oui, mais dans ta question, je vois deux aspects qu'il faut traiter séparément, si on veut bien voir les choses. D'abord, il y a la question de la nature. Alors effectivement, dans les enseignements du Zen, le mot nature et le mot naturel revient sans cesse. Parce que la certitude, on pourrait même parler de la foi profonde qui anime notre pratique, c'est la foi en Maître de Shimaru, employer l'expression, croire en son propre esprit. C'est-à-dire, c'est la conviction née d'une expérience intime, d'une forme d'éveil, de révélation, que notre être, notre présence au monde, ne peut absolument pas se résumer, se réduire à ce petit personnage qui est né et qui va mourir, à toutes les contingences de la vie, à nos souffrances, nos joies, dont finalement on ne peut rien retenir. Elles nous arrivent, elles viennent, elles vont, et il n'y a rien de solide là-dedans, rien d'authentique et rien de durable. Donc à partir du moment où on fait ce constat, on vient, la foi, parce que c'est de l'ordre de la foi, dans une nature propre. Il y a plein d'expressions pour appeler ça dans l'enseignement du Zen. On appelle ça la nature propre, on appelle ça la condition originelle, on appelle ça notre vraie appartenance. Donc une dimension de nous-mêmes qui dépasse de loin les caractéristiques totalement insaisissable et impermanente, auquel l'être humain a l'habitude de s'identifier. S'identifier à tel point qu'il en vient à se mettre dans des états épouvantables pour avoir raison, pour affirmer son bon droit. Il en vient à faire la guerre, à se rendre malade, à devenir fou. Or, nous disons, et chacun, je pense, à cette lumière en lui-même, cette conscience en lui-même, que notre véritable être, notre être le plus profond, n'est pas là. Il n'est pas dans le petit remue-ménage intérieur. Donc, si tu veux, cette notion de nature, c'est cette notion d'appartenance à une dimension beaucoup plus vaste, à la limite illimitée, de nous-mêmes, au-delà de l'ego. Donc voilà pour la nature, on peut y revenir si vous le souhaitez. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect physiologique, c'est un autre aspect de notre discipline, de notre voie, qui est vraiment caractéristique, je pense, qui est la marque de fabrique du zen. Le zen, la pratique du zen, elle est basée sur une posture de méditation, sur une assise. Et cet aspect physiologique, c'est-à-dire la posture du corps, et bien entendu la posture de l'esprit, et de même la respiration, pour nous est le fondement de la pratique. C'est-à-dire que c'est une posture dans laquelle on trouve le juste tonus physiologique, ce que Maître Deshipa Maru appelait la condition normale du corps et de l'esprit. C'est une posture qui s'allie à... qui suscite un bon équilibre des énergies. C'est une posture extrêmement stable et confortable, à la fois dynamique et détendue, et qui permet justement une observation complètement neutre des processus mentaux. Et donc ça, c'est le côté physiologique. On enseigne, nous, et on découvre par l'expérience de la pratique, que la distinction, la séparation entre le corps et l'esprit est totalement artificielle, qu'elle n'a pas de sens, c'est une invention. Le corps et l'esprit sont une seule entité, et c'est quelque chose qu'on peut complètement vérifier à travers la pratique. Il y a, dans notre culture, dans notre civilisation chrétienne, un vieux relent de détestation et de mépris du corps. Je ne veux pas critiquer le christianisme, hein, c'est pas du tout mon propos, et j'ai beaucoup de respect pour Jésus, pour l'enseignement de Jésus, pour la mystique chrétienne. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais la tournure qu'a pris l'Église au cours des siècles avec la notion du péché en vient à rejeter le corps. Dans le zen, ça serait presque plutôt l'inverse. Nous, on dit que souvent le corps est beaucoup plus sage que l'esprit, et que notre corps peut nous aider à remettre l'esprit dans la bonne direction, dans ses chaussures. Voilà donc pour l'aspect physiologique.
Voilà. Et donc pour revenir à cette véritable nature, est-ce que tu relis ça à Dieu, à la véritable nature? Est-ce que ça pourrait être Dieu, par exemple?
Ouais, ça c'est une question intéressante. Ça soulève le problème de la religion. Alors là, on arrive dans un domaine où les mots sont totalement insuffisants. On s'enferme très vite dans des catégories. Je citerai encore Maître Deshipa Maru. Qu'on me pardonne, mais c'est le maître dont j'ai suivi l'enseignement, c'est le fondateur du zen en Europe, et c'est un peu toujours ma boussole et ma référence. Maître Deshipa Maru aimait à dire « Le zen, c'est la religion avant la religion. » Alors, c'est très difficile de jouer sur les mots, hein, religion, spiritualité, mystique... Moi, personnellement, je suis un terrien, je suis un peu un cuistre, et la religion ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, cette notion de quête de l'éveil, de spiritualité, de dimension supérieure, me tient à la peau. Et elle est complètement présente dans la pratique du zen. Hein. Mais, par exemple, on aime mieux parler d'ordre cosmique, de dimension supérieure, de vraie nature, que d'utiliser le mot Dieu. Et quand on va voir dans toutes les mystiques, ce que je peux en savoir, que ce soit la mystique soufie, la mystique indienne, la pensée des Indiens d'Amérique, en fait je pense sous tous les cieux, dans toutes les traditions, parce que c'est vraiment un propre de l'intelligence humaine. Il y a cette notion de, alors comment dire, de divinité, de nature propre, qui est omniprésente. Maintenant, nous, on a, dans nos civilisations monothéistes, on a développé ce concept, cette notion de Dieu. De Dieu, alors quoi, créateur. Quand ça tourne à sa dimension la plus grotesque, c'est le grand barbu là-haut, qui montre les méchants du doigt et qui récompense les bons. C'est bien évident que ça n'a aucun sens. C'est vraiment de l'infantilisme. Par contre, inévitablement, on va tomber sur l'idée de, appelons-le, la divinité, bien sûr. Oui.
La divinité, mais qui n'est pas extérieure, c'est ça, hein ?
Qui n'est pas extérieure. La démarche, alors comment dire, mystique, mais est-ce qu'il faut parler de mystique ? La démarche spirituelle, elle est fondée sur la certitude et la quête de l'unité. Toutes les séparations sont des inventions de notre cerveau fébrile. En fait, il n'existe qu'une réalité, une et indivisible, à laquelle nous pouvons avoir accès, non pas par l'intelligence et par les concepts, mais par la fusion, par l'immersion. Voilà.
Ce qui fait qu'on peut dire qu'elle n'est pas extérieure, mais qu'elle n'est pas intérieure non plus. Qu'il n'y a pas d'intérieur et
il n'y
pas
a
d'extérieur.
Ni intérieur ni extérieur. Ça aussi, c'est un aspect très intéressant de l'enseignement du Zen. C'est que Zazen, c'est embrasser les contradictions. C'est-à-dire ne pas rester sur une extrémité, ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur, ni sur le matériel, ni sur le spirituel. Maître Deshimaru disait tenir les deux ficelles du cerf-volant. Il faut bien comprendre que les paires de contradictoires qu'on rencontre tout le temps sont purement circonstancielles, purement artificielles, qu'elles n'ont pas d'existence fondamentale. La seule certitude qu'on peut avoir, pour citer les textes, pour citer par exemple Maître Dogen, il y a quelque chose, et ce quelque chose est ainsi venu. C'est-à-dire qu'il est là, c'est un mystère irréductible, comme un diamant, qu'on peut pas séparer les facettes, et que c'est à nous de l'avaler, hein, de l'actualiser, de l'intégrer, et de le faire vivre en nous. Mais les séparations peuvent être utiles, on peut s'en servir comme d'un jouet, comme d'un cerf-volant, mais elles n'ont pas d'existence propre.
Et qu'est-ce qu'il en est de la dimension collective en fait du Zazen ? Comment par le Zazen on se relie à cette dimension-là ?
Ouais, ça aussi c'est une question très très intéressante, qui est peut-être pas très facile à expliquer, mais je vais essayer. Le Zazen, se situe dans la tradition Mahayana du bouddhisme, qui est apparue tardivement et qui repose sur le vœu du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est l'être, c'est-à-dire vous et moi, qui a décidé de renoncer à son salut personnel, parce qu'il trouve que c'est pas très intéressant. Que sa petite personne n'est pas très très intéressante et que, bon, à quoi ça rime de se sauver, et qui a décidé de travailler sur ses illusions, sur les maladies de son âme, qu'il a bien reconnues, qu'il a bien identifiées, et qui sont les mêmes que celles de tous les êtres. Et donc qui a décidé de travailler avec tous les êtres pour arriver à l'éveil. Hein? Donc la démarche du Zen, la démarche, la voie du Bodhisattva, est une démarche entièrement collective. On n'envisage pas de s'en sortir et de laisser les autres dans la mouise. C'est une démarche entièrement collective, d'abord dans son esprit et ensuite même dans son aspect concret, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas tout seul. On pratique dans un dojo avec les autres, on avance tous ensemble. Et à un niveau encore plus large, il n'y a pas de salut individuel. L'humanité est totalement dans l'impasse. Elle va droit au mur. Et il va falloir que tout le monde y mette du sien, si on veut arriver à inverser l'ordre des choses, s'il en est encore temps.
Et justement, ouais, par rapport à la situation du monde actuel, cet état de crise, etc., comment on peut relier cette pratique-là, je ne sais pas.
Alors, il y a un angle sous lequel j'aime bien aborder cette problématique-là. Si on ne peut pas dire, ou alors il faut avoir une réflexion pauvre, limitée, illusoire, on ne peut pas dire il y a des bons et il y a des méchants. Ça ne rime à rien. L'humanité est un tout solidaire. L'État assez déplorable dans lequel nous avons mené la civilisation n'est pas le fait d'une poignée de méchants qui veulent faire du mal aux autres. On y a tous collaboré. Nous sommes tous totalement responsables et solidaires de ce qui se passe. Ne serait-ce que parce que nous avons laissé une poignée d'oligarques se mettre aux commandes et emmener le bateau dans une direction totalement erronée, hein, puisqu'il s'agit simplement de la quête de l'argent, de l'enrichissement. Et nous y prenons tous part. D'ailleurs, nous participons tous au pillage et à les distributions totalement injustes des ressources de l'humanité. Donc il ne faut pas rechercher des bons et des mauvais. Il s'agit de nous concerter, de travailler ensemble pour inverser la machine. Hein. Et ça, au niveau collectif, c'est le reflet de ce qui se passe en chacun d'entre nous au niveau individuel. Cette espèce de laisser aller, de renoncement à intervenir sur le cours des choses, qu'on voit au niveau collectif, l'humanité accepte de foncer droit au mur, on le retrouve au niveau individuel. Au niveau individuel, on s'aperçoit qu'on ne mène pas sa barque comme il faudrait, quand on s'observe bien, qu'on préfère la petite satisfaction immédiate à la quête de l'éveil, à la réalisation de ses potentialités d'être humain. On est tous à la même enseigne de ce côté-là. Il y a la même inconséquence dans notre pratique individuelle et dans notre pratique collective. Nous, ce que nous pensons, les gens qui se sont adonnés complètement, qui se sont dévoués à la pratique de la voix, c'est qu'il faut mieux, pour citer un texte ancien du Chan, du Zen chinois, il vaut mieux aller à la racine que fouiller dans les branches. Et aller à la racine, c'est aller à la racine de ses propres illusions, de ses propres attachements égotiques, plutôt que de fouiller dans les branches, c'est-à-dire regarder vers l'extérieur, s'en prendre à un tel et à un tel. Donc la démarche de l'homme de la voix, c'est de travailler sur lui-même, de s'éveiller. Et nous pensons que l'éveil est contagieux. Nous pensons que ça n'a rien de magique ou de mystérieux. Lorsqu'on s'éveille, on change de comportement, radicalement. On se comporte différemment. On n'est plus mu par l'égoïsme. Et ça a une influence autour de soi qui marche comme des vagues, qui se diffusent. Et bon, moi, c'est ce que j'essaye bien modestement de faire dans ma vie, de faire autour de moi, plutôt que d'aller militer ici ou là.
Et du coup, on pourrait dire que le but du zazen, c'est de s'éveiller, donc ?
Le but de zazen, c'est de réaliser l'éveil foncier, c'est-à-dire de se persuader complètement dans tous les pores de sa peau, depuis le bout des orteils jusqu'en haut des cheveux, que notre nature profonde est totalement éveillée et que le cosmos est totalement éveillé, qu'il n'existe rien en dehors de l'éveil. Et à partir du moment où on s'immerge dans cette façon de voir et dans cette façon de vivre, on éveille les autres en même temps. L'éveil personnel n'a pas grand intérêt. Il n'en a même aucun, à vrai dire.
Alors, j'ai pas très bien compris s'il y avait une sorte de, enfin, ou alors, en tout cas, c'est pareil parce que c'est une sorte de dialectique, quoi. Il y a à la fois le renoncement et à certaines choses ou à certaines habitudes, mais en même temps, le contraire du renoncement, donc la prise en main volontaire de son chemin, par exemple, ou d'un chemin collectif. Oui, il y a ce balancement entre les deux. À la fois, on n'est pas que dans le non-faire ou que dans le lâcher-prise ou que dans, en fait, on ne fait que s'asseoir et s'éveiller. On est aussi amené à prendre en main les choses. Donc, le contraire du renoncement.
Tu es véritablement, Aline, là, au cœur du problème, au cœur de ce grand koan, pour prendre un terme du Chan, donc de ce grand dilemme, de cette grande question. Par exemple, Maître Dogen, qui est le fondateur du Zen japonais, est ému, avant d'atteindre l'éveil, avant de devenir Maître Dogen, est ému par cette question-là. Lui, il se disait, puisque nous avons la liberté fondamentale, la nature propre, pourquoi faut-il s'imposer une telle discipline, de tels efforts pour arriver à rencontrer ce que nous sommes déjà? Et il était complètement perplexe. Il est parti en Chine pour essayer de trouver une réponse. C'était vraiment le moteur de sa vie. Et quand il est revenu, il a dit « L'univers entier est tel qu'il est. La réalité est telle qu'elle est. » C'est-à-dire, il parle de l'éveil foncier, de l'univers entier, grâce à notre effort de chaque instant. Tout à l'heure, je parlais de tenir les deux ficelles du cerf-volant. C'est exactement ça, ne jamais tomber dans une extrémité. Toujours tenir les deux ficelles du cerf-volant. Et nous, on parlait tout à l'heure de l'aspect physiologique, la résolution de cette contradiction, on l'a fait à travers la posture elle-même. C'est-à-dire que notre posture de zazen, allie un effort, une tension sans relâche. Hein, étirer la colonne vertébrale, se tenir bien droit, pousser le ciel avec la tête, pousser la terre avec les genoux. Donc il allie cette tension à un total lâcher-prise, à un total relâchement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on étire la colonne vertébrale, on relâche totalement les tensions musculaires, on relâche les épaules, on relâche les muscles du visage, on relâche l'abdomen. Et on adopte une respiration complètement fluide, sans heurts, sans à-coups, qui circule de la pointe du nez jusqu'au fond du ventre. Donc on ne peut absolument pas prendre un seul aspect et laisser l'autre. Il y a à la fois une tension de l'être le plus total, la plus totale qu'on peut, avec nos petits moyens, et à la fois un relâchement, un lâcher-prise aussi total. C'est en épousant ces deux dimensions de notre nature qu'on peut arriver à progresser.
Alors j'espère que les auditeurs, auditrices ont profité de ta description pour ressentir en eux-mêmes leur colonne vertébrale, le ciel au-dessus de leur tête et le sol sous leurs pieds. Donc on vous souhaite une bonne forme. Et Radio Medium se veut une émission percutante et courte. Donc nous avons atteint notre demi-heure traditionnelle. Et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de continuer certains points que tu as évoqués, qu'on a pu évoquer ici. J'espère qu'on te retrouvera dans de prochaines émissions de Radio Medium.
Avec un grand plaisir. De toute façon, je crois qu'on a dit l'essentiel, c'est pas la peine d'en rajouter.
Pour aujourd'hui, voilà, et puis d'autres questions naîtront. Et puis cette émission a lieu en direct, c'est aussi pour que lors de prochaines émissions, eh bien, il puisse y avoir des interventions téléphoniques d'auditeurs, d'auditrices qui sont loin, qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans le studio. On rappelle aussi que cette émission est en direct, donc les studios de Radio Diwa situés aux 3 Terres, rue Joseph Reynaud, dans cette ville de Die, sont ouverts aussi. Vous pouvez venir nous rencontrer l'équipe de Radio Medium avant et après l'émission. Et puis on voulait quand même, voilà, pour les auditeurs, auditrices qui ont senti quelque chose dans leur corps et qui ont envie de continuer cette pratique ou de la rencontrer. Donc il y a un dojo zen à Die. Et alors c'est toi qui es le mieux placé pour nous en parler, Luc. Pour nous, voilà, situer, enfin, pratiquement, techniquement, comment on fait?
Oui, le zen, pour revenir à ce qu'on a dit au départ, ce n'est pas du tout une affaire de spéculation, c'est une affaire d'expérience intime. Donc pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient aller un petit peu plus loin dans cette découverte, Mais bien entendu, il ne faut pas venir en touriste. Hein. Il faut venir s'il y a une véritable démarche. Autrement, ce n'est pas la peine. Donc, le dojo propose des séances de pratique de zazen, de la méditation. Notamment, alors pour les débutants, on vient d'ouvrir une nouvelle séance à partir du jeudi 12, le jeudi de 18h à 19h. Et autrement, il y a une séance le mercredi matin de 7h30 à 9h et une autre le dimanche de 10h30 à midi. Donc vous êtes les bienvenus, il faut arriver 10 minutes à l'avance. Et le dojo, c'est rue Élie Brochier, en face du restaurant Le Mazel.
Dans la salle de Clermont-Tessinos, de c'est ça.
Voilà.
La salle de Clermont-Tessinos, ouais, en face du Mazel. Voilà. Et puis tu voulais peut-être annoncer aussi, Luc, qu'il y avait une journée de zazen dimanche.
Oui, alors on fait des journées ou des stages un peu plus longs. Il y en a une au dojo le dimanche 8 février. Et il y aura une Seishin dirigée par un autre moine zen de la même sangha, de la même famille que moi, Edouard Bagarski, à Rekubo le week-end du 27 au 29 mars. Le mieux, si ça vous intéresse, c'est de venir au dojo et de prendre contact avec moi.
Et peut-être tu veux laisser un téléphone ou non?
Oui, ben ouais. Je vais vous laisser mon téléphone, 04 75 22 26 93, 04 75 22 26 93.
Donc on le mettra sur la page internet de Radio Medium numéro 21, sur lequel, on l'espère très bientôt, vous pourrez télécharger, podcaster cette émission pour la réécouter et la décortiquer. Et puis vous trouverez aussi sur la page internet, je sais qu'il y a un site internet.
Oui, il y a un site. Voilà. Oui.
Donc,
on le mettra sur le...
Voilà, on le mettra sur la page.
Voilà, voilà. Bon.
Très bien, merci beaucoup Luc.
Bah, je vous remercie tous.
Merci pour l'attention.
Un pied devant l'autre.
On a deux pieds.
Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine avec Carmen en direct du Québec. Voilà, qui nous donnera un peu des nouvelles.
Voilà, bonne écoute de Radio Diwa.
À bientôt, au revoir.